Un film fait à partir de photos prises à la Libération. Des sourires, des visages radieux, amusés. Une cascade de bonheur. Puis les mêmes photos, dézoomées, vues de plus loin, avec un petit peu de recul. Ces scènes de bonheur sont en fait des scènes de tonte. Toute cette joie aux dépens de femmes, de filles, en train d'être humiliées, insultées, frappées, dépossédées de leur corps. C'est aussi ça la libération. C'est sur ces tontes punitives que Lilith, Martine et les autres ouvrent leur nouvelle trilogie intitulée « La boule à Z ». Il y a eu bien des tontes punitives qui ne se sont pas seulement passées en France à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, bien avant, contre les femmes adultères, ou contre les républicaines en Espagne, ou encore dans les colonies. Le 11 juillet 1682, la population rome est condamnée, les hommes aux galères à perpétuité et les femmes à être tondues. Il y a d'autres exemples qu'on ne va pas développer ici. On va beaucoup parler de la Seconde Guerre mondiale, parce que c'est un épisode assez vieux et un petit peu documenté, même s'il reste méconnu et simplifié. Et puis, ça fait écho à des événements récents, avec le parallèle qui a été fait entre la Libération et les marches républicaines du 11 janvier 2015.
Le peuple de Paris debout. Une marée humaine sans précédent au cœur de la capitale. De la place de la République à la Nation, trois cortèges, des centaines de milliers de personnes. Une émotion intense, des drapeaux à perte de vue, une clameur gigantesque pour un message unique. Une foule compacte, plus impressionnante que jamais, une atmosphère unique. La Marseillaise, reprise par vagues. Des applaudissements nourris pour les forces de l'ordre. Un élan de fraternité jamais vu depuis la Libération. Le 11 janvier 2015 fera date dans les livres d'histoire.
The largest square in the world, the Place de la Concorde, swells with its largest audience to greet this leader.
Était joyeuse à la Libération. Les Parisiens trinquaient sur les nappes à carreaux pour fêter dignement la fin de l'oppression. À nouveau, sur les toits rayonnaient les drapeaux. Mais les cris d'allégresse se couvrirent de haine lorsque vint la curée aux abords de la Seine. De nombreux anathèmes fusèrent en taloches contre ceux soupçonnés d'avoir servi les boches. Une femme eut le tort d'avoir offert son cœur à un homme ennemi, un soldat vert de gris. La vindicte cruelle lui hurla son mépris, au milieu d'une foule rongée par la rancœur. Traînée par les cheveux, elle fut emmenée, au centre de la place sous une pluie d'insultes, pour la faire payer cette vilaine pute, pour la faire pleurer cette sale traînée. De force, elle s'assit sur un vieux tabouret. Elle baissa les yeux, ne voulant regarder, les nombreux yeux avides de voir l'humiliation qu'elle allait endurer avec résignation. Par des cliquetis sombres étant apostrophés, une tondeuse agit, rasant sa chevelure. Le peuple s'en saisit en guise de trophée et cracha au visage de cette fille impure. Elle quitta l'estrade sous tous les quolibets. Était-il préférable au vulgaire gibet ? Car l'âme tourmentée d'un douloureux marasme fut toujours poursuivie d'injures et de sarcasmes.
En plus d'être assez peu connues et peu documentées, les tontes sont un épisode autour duquel on a construit une image pleine d'idées reçues. On croit par exemple que c'est vraiment circonscrit à quelques jours autour de la libération, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, que c'est celles qui ont vraiment couché avec les Allemands, et puis que c'est des tontes spontanées. Pour revenir là-dessus, déjà sur les faits, les tontes se passent de 43 à 46. Les tontes, donc là on parle vraiment des tontes en France à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Elles se passent dans toute la France, dans les grandes villes jusqu'aux plus petits villages, et on peut compter à peu près 20 000 femmes qui vont être tondues. D'abord, on trouve des menaces de tonte punitive dans la presse dès 1941. Donc l'idée s'installe vraiment petit à petit, et quand arrive la libération, ça fait bien longtemps qu'on a déjà pensé à cette tonte des femmes comme punition. Les femmes qui vont être tondues sont accusées de trahison, mais seulement à partir du moment où la collaboration avec l'occupant devient une trahison, c'est-à-dire à partir de 43. La moitié seulement de ces 20 000 femmes est tondue pour relation avec les Allemands, donc relation avec les Allemands au sens large, donc c'est assez flou. Et puis ça devient de l'indignité nationale, avec un glissement entre la morale et la politique, puisque coucher avec la mauvaise personne va faire de vous une traître à la patrie. Et puis, les autres, hein, l'autre moitié de ces 20 000 femmes, sont accusées finalement des mêmes choses que des hommes, à savoir collaboration, trahison, délation, ou simplement travail pour les Allemands, sachant que c'était quand même pratiquement les seuls employeurs à l'époque. Mais elles aussi, elles vont être tondues. Et elles vont être tondues parce que ce sont des femmes. Et c'est pour cette spécificité-là qu'elles sont punies de façon spécifique. Même si finalement, on leur reproche exactement les mêmes faits qu'à des hommes. Ces tontes sont vraiment mises en scène. Ça devient des rites, les femmes sont amenées sur la place publique, souvent sur la place du village ou près de devant des monuments aux morts, enfin des endroits qui revêtent un fort caractère symbolique, et qui il y a tout souvent des estrades qui sont montées et une population qui regarde, et voilà, c'est un peu mis en scène de la même manière que le sont ou l'étaient les exécutions publiques. S'il y a donc une participation qui est spontanée à ces tontes, il y a aussi une grosse planification et instrumentalisation de ces tontes par les autorités. Donc, comme je l'ai déjà dit, dès 41, on trouve la menace des tontes punitives dans la presse. Et donc, cette idée a été l'idée de ce que symbolise la tonte et de ce que vont être les tondus. Ça a été construit depuis plusieurs années déjà, quand il y a vraiment les gros épisodes de tonte. Preuve que les autorités y participent pleinement, en fait, lorsque les comités locaux de libération se créent durant l'année 44, l'organisation des tontes punitives est une de leurs premières tâches. D'une part, ça permet aux fameux résistants de la dernière heure, donc qui sont les personnes qui se sont dites résistantes au moment où le vent tournait et qui voyaient qu'il fallait mieux dire qu'ils étaient résistants, et bien ça leur permet justement de se situer du bon côté. Et puis d'autre part, ça, c'est aussi une sorte de vengeance pour tous les soldats, les prisonniers qui sont de retour, ceux qui ont souffert. Du coup, c'est une vengeance sur les Allemands et qui passe par le corps des femmes.
Je me souviens qu'on les amenait une par une, elles criaient, elles pleuraient, elles disaient qu'elles étaient innocentes.
On les traitait de tout, de traîtres, de salopes, de putes.
Vous ne pouvez pas arrêter la foule, la populace, quand elle est comme ça. C'est une véritable révolution, c'est affreux. Elles étaient couvertes de débris de légumes pourris, de fruits, de tomates, c'était affreux. Elles étaient sur des chariots, on aurait dit, vous savez, comme les amener à l'échafaud. Les gens montaient sur les ridelles pour leur arracher les vêtements. Et bon, les faisaient mettre à genoux et on entendait dans la violence. Quoi.
La façon dont on leur avait coupé les cheveux, c'était laid. Alors, à mesure que les cheveux tombaient, ils applaudissaient, ils rigolaient, ils sifflaient.
Alors, qui sont, du coup, ces tondus ? Qui sont ces collaboratrices horizontales, comme on les appelle ? Façon de rappeler que, justement, le côté sexuel de leur collaboration. Eh bien... ces femmes, on les punit en tant que groupe. On les punit par leur corps afin de rappeler ou justement de suggérer que leur corps est coupable. Il y a un dixième des femmes qui sont tondues qui vont être condamnées pour relations sexuelles avec les Allemands. Mais alors, qu'est-ce qu'on condamne chez les autres ? En dehors de la collaboration en tant que telle, vu que cette collaboration, en fait, elle n'a rien de spécifique aux femmes. Eh bien, les tondues, c'est avant tout des femmes sans hommes. Soit leur mari est parti au front, il a été fait prisonnier, soit elles n'ont tout simplement pas de mari. Et puis, elles ont leurs propres moyens de subsistance. Elles ont une certaine indépendance. Elles sont donc indépendantes d'un mari, puis du coup ça les rend un peu indépendantes des hommes en général, quoi. Et puis du coup c'est des femmes qui travaillent. Bref, c'est des femmes qui en fait échappent au contrôle communautaire, au contrôle familial ou au contrôle professionnel. Elles côtoient des Allemands en travaillant dans des hôtels. Ou comme femme de ménage ou comme institutrice et comme l'occupant s'est installé partout, ben dans les écoles justement ou dans tous les établissements hôteliers et puis que c'est les seuls à donner des emplois, et ben elle les côtoie effectivement. Donc elle côtoie des Allemands, elles sont indépendantes et elles ont un revenu. Elles participent parfois à un mode de vie un peu plus huppé, un peu plus privilégié que la plupart de la population, en gagnant de l'argent et en se faisant inviter par les soldats. Mais parfois, c'est aussi de simples employés qui juste lavent de la vaisselle pour les Allemands. Et c'est ça qui va être en fait désigné comme leur collaboration. Les accusations qui sont portées contre elles visent clairement leur réputation et puis sont issues de justement tout le fantasme populaire qui peut y avoir autour de femmes qui sont un peu plus libres, un peu plus indépendantes ou en tout cas qui échappent au contrôle. Donc tout ce fantasme, ça va créer des rumeurs et puis c'est des rumeurs qui vont suffire à décréter qu'elles ont mauvaise réputation. Et qu'elles sont finalement indignes d'être du camp des résistants, de ceux qui se sont battus pour la nation, de ceux qui ont souffert de la guerre, de la faim et de la privation. Et puis, du coup, aussi pour réargumenter ça, on va bien sûr mettre en avant le fameux instinct frivole des femmes et leur faiblesse morale pour bien montrer... que c'est des femmes de mauvaise vie, quoi. Ce qui est intéressant là-dedans aussi, c'est que ça se passe, donc selon les endroits sur le territoire, ça va pas se passer exactement de la même manière, puisque ça va être des comités locaux qui vont chapeauter un peu tout ça. Et par exemple, il y a des endroits où l'idée du sentiment amoureux va rajouter à la compromission. On peut voir ça parce que justement, il y a des endroits où les prostituées vont échapper aux tontes Et les arguments qui vont permettre ça, c'est parce que c'est leur profession à elles, donc elles sont dans un certain sens plus morales que les autres, puisqu'elles n'ont fait que leur travail, elles ne se sont pas vraiment compromises avec les Allemands, même si elles ont couché avec eux. Du coup, ces petits allers-retours qu'on peut voir sur justement l'idée de morale, quand est-ce que les femmes sont de bonne vertu ou pas. Et puis donc, le groupe des tondus, puisque c'est vraiment un groupe avec une identité particulière, il va être construit sur cette idée de réputation, sur ce corps qui a fauté, sur cette confusion entre justement cette faute morale qui est de coucher avec la mauvaise personne, et une faute politique. Car, en fait, y a dans le même groupe, on va mettre celles qui ont couché avec les Allemands et celles qui ont lutté aux côtés de l'occupant. Ça va être le même sac, elles vont être punies de la même manière, elles vont être toutes tondues, uniformisées de la même manière. Du coup, ce groupe, cette tonde, ça devient carrément un statut qui va mettre en avant, qui va représenter les femmes qui ont fauté. Ça va être un groupe qui est détaché des hommes qui ont pu être exactement dans les mêmes situations quand il s'agit de travailler pour les Allemands ou de les fréquenter, de collaborer d'une manière ou d'une autre. Mais eux, c'est des hommes. Et donc là, on voit bien qu'il y a une question vraiment de division sexuée de la faute et que le châtiment de la tonde, c'est bien un châtiment sexué de la collaboration et pas l'inverse, pas un châtiment d'une collaboration sexuée. C'est-à-dire qu'on n'a pas une collaboration spécifique, mais on a une punition spécifique pour les femmes. Et puis, ce statut de tondu, il induit des choses plus larges que la tonte, parce que en tant que tondu, ce stigmate, il reste déjà plusieurs mois, le temps que les cheveux repoussent, mais on le sait aussi qui a été tondu, etc. Donc, ça va se poursuivre, et puis il y a des tondus qui vont être interdits de séjour dans leur village, mis au banc, qui vont être internés, qui vont être emprisonnés. Et il a même été question que les tondus soient exclus carrément de l'extension du droit de vote aux femmes qui était en cours à ce moment-là. Donc, on a vraiment les tondus qui sont à la fois exclus du groupe des femmes et du groupe des citoyennes. Le statut de tondu, il englobe et il efface les faits commis par ces femmes pour en suggérer d'autres qui sont plus d'ordre sexuel que politique et justifier du coup les sanctions.
La belle qui couchait avec le roi de Prusse, avec le roi de Prusse, à qui l'on a tendu le crâne rasibus, le crâne rasibus. Son penchant prononcé pour les ignibodies, pour les
pour sauver son chignon.
fait coupeur de cheveux. En quatre mots, fait peur, en quatre mots, fait peur. Quand pire qu'une brosse, elle eût été tondue, elle eût été tondue. J'ai dit, c'est malheureux, ces accroche-cœurs perdus, ces accroche-cœurs perdus. Et ramassant l'un d'eux qui traînait dans l'ornière, qui traînait dans l'ornière, je l'ai comme une fleur mise à ma boutonnière, mise à ma
Fred avait été fait prisonnier.
Il m'avait dit, Madeleine, il faut partir parce que c'est fini pour nous, tu vas avoir des embêtements. Alors je suis partie et après quelques kilomètres, le train s'est arrêté et là, il y avait plein de fifilles, plein de gens en civil. Puis c'était la terreur, hein, ça commençait à être la terreur. Les fifis nous sont tombés dessus. Ils étaient camouflés derrière, par là, dans les maisons, j'en sais rien. Alors ils nous ont emmenés d'office. Il m'a dit, mais on n'a rien fait.
Je m'en rappelle plus bien.
On nous a amenés ici, dans cette école. On est resté là. Je suis resté 15 jours, 3 semaines, sur des matelas. Et en attendant qu'il y ait un jugement. Deux jours après, ils nous ont tendus, parce que comme moi j'avais mon sac, comme j'ai aujourd'hui, avec la photo de Siegfried, alors vous avez compris.
Cousu dans la doublure.
Cousu dans la doublure, voilà.
Ils ont trouvé la photo.
Ils m'ont tout volé,
dans la doublure.
Mes papiers, mon argent, ce que j'avais, la photo à Wolf. Et quand ils ont vu ça, ils n'ont même pas questionné. J'étais avec la jeune femme, là, ils nous ont emmenés, puis... Ça a fait l'attraction, ils nous ont tendus. Et la photo de Siegfried, ils l'ont déchirée puis ils l'ont jetée au visage.
Je vous sens
au visage.
D'être là encore aujourd'hui.
Pardon ?
Je vous sens encore inquiète aujourd'hui de venir là.
Oui, ça me traumatise un peu, mais enfin bon. Si, j'aime. C'est un village où il n'y avait jamais rien. Alors là, je parle d'attraction avec les deux filles, avec eux qui avaient... Il y avait tout le village. Il y avait même 30 000 personnes autour de là-bas, au pied de la mairie, là, quand ils nous ont raclé, là. Enfin bon...
Vous êtes toujours à l'écoute de Lilith Martine et les autres sur Radio Canus 102.2 et aujourd'hui on vous parle des tontes punitives. Alors ces tontes, elles participent aussi fortement à la reconstruction sexuée de la communauté nationale. La reconstruction sexuée parce que justement on remet les femmes à leur place et les hommes à la leur. Et on veut bien distinguer les deux avec leur rôle, mais tout ça dans une grande communauté nationale. Du coup, ce qui est en jeu à ce moment-là, et puis c'est là qu'on peut faire un parallèle aussi avec ce qui se passe en ce moment, c'est sur quoi la nation est construite, sur quelles valeurs elle se solidifie. Et donc, ce qui est vraiment en jeu aussi, c'est qui est-ce qui est citoyen, qui est-ce qui est le citoyen légitime.
La libération est un moment d'affirmation et de rassemblement. D'affirmation de soi par la projection de chacun dans un collectif local et national, à travers la reconstruction d'un sort commun. Les tontes constituent dans ce contexte un moment de réappropriation d'un passé républicain, le retour d'un héroïsme combattant, une identification à une souffrance, une virilité retrouvée, sans que disparaissent les traits d'une société valorisée et amplifiée par le régime de Vichy, comme la domination masculine.
Et puis, du coup, cette reconstruction, elle se fait sur plusieurs axes. Alors, un de ces axes pour reconstruire une communauté nationale, c'est de redonner une virilité aux hommes qui l'avaient perdue. En effet, le pays a vécu un échec de la virilité, puisque finalement, les hommes ont échoué en 1940 et puis après encore en 1943, lorsque l'occupant allemand avance sur le territoire et annexe la France. Du coup, les hommes ont complètement échoué à protéger le pays d'une occupation. On peut rajouter, du coup, à ce constat, le travail qui a été fait aussi par le régime de Vichy avec le maréchal Pétain pour remettre en avant l'idée que les femmes doivent être des mères et rester au foyer parce que sinon elles sont néfastes. Parce que, en fait, c'est aussi à cause des femmes que la guerre a été perdue, parce que c'est elles qui insufflent un esprit de jouissance à la nation. Et à ce moment-là, le symbole de Marianne disparaît parce qu'on ne veut pas de femmes qui puissent représenter la nation et la République, puisque ce n'est que faiblesse et jouissance, quoi. Donc les tontes s'inscrivent dans cette continuité avec des femmes qui sont désignées responsables de la souffrance du peuple et de la réussite des occupants. Mais c'est aussi un processus de réappropriation des corps, comme les hommes se réapproprient le territoire au fur et à mesure qu'ils le libèrent de l'occupant. Donc les hommes reprennent le contrôle de leurs femmes, mais là de leurs femmes au pluriel, c'est-à-dire les hommes reprennent le contrôle des femmes du peuple français. C'est donc une façon pour ces hommes de réaffirmer leur virilité en dominant les femmes, en étant acteurs de la libération. Et comme on l'a dit, ça se passe aussi à un moment où la participation des femmes à l'économie et à la résistance offre des opportunités d'émancipation. La question du vote et de la citoyenneté à part entière est sur le tapis pour les femmes. Mais la tonte est bien là pour montrer justement que la sexualité des femmes en tant que groupe appartient bien aux hommes en tant que groupe aussi. Et la mise en place des rituels de tonte permettent l'exercice direct du pouvoir des hommes sur les femmes, l'exercice direct de leur puissance virile. Cette virilité peut aussi s'appuyer et renforcer, s'appuyer sur le système patriarcal et le renforcer de la même manière. C'est-à-dire que quand on a le retour des prisonniers chez eux et des soldats et qui découvrent qu'ils ont été trompés par leurs femmes pendant qu'ils étaient absents plusieurs années, il y a les comités locaux vont justement réorganiser des tontes. Enfin, c'est vraiment une très grosse période où il y a beaucoup de tontes qui se passent à ce moment-là, lors du retour des hommes, parce que ça permet de les venger, de venger le fait qu'ils aient été trahis par leurs femmes. Et donc, il y a bien une sorte d'imbrication là, entre l'État-nation et la famille, pour un bon rétablissement de l'ordre patriarcal. Donc, globalement, il y a bien ce truc-là de remettre en place le patriarcat, qui a été quand même un peu ébranlé par la guerre. Ça s'appuie aussi sur la honte des tondus, parce qu'en fait, Ben voilà, on est tondu, ça dure plusieurs mois, tout le monde sait qu'on est tondu, qu'on nous assimile du coup au fait d'avoir couché avec les Allemands, donc c'est quand même bien la honte. Et du coup, il y a plein de tondus qui vont ben, rester beaucoup chez elles, quoi. Donc voilà, les femmes sont bien remises au foyer et restent au foyer. Et puis, du coup, il y a cette humiliation qui change de côté, l'humiliation qu'a vécu les hommes et qui les empêche de vivre pleinement leur virilité. Et ben, elle passe dans le camp des femmes. Puisque c'est elles qui vont porter maintenant carrément dans leur corps, dans leur image, l'humiliation, la honte de la nation. Ainsi, le citoyen légitime et libéré, c'est l'homme à la virilité retrouvée, le vrai Français.
Il s'agit par la tonte non seulement d'exclure la femme de la communauté nationale, mais aussi de détruire l'image de sa féminité. À l'érotisation qui prépare la tonte succède ainsi un processus de désexualisation. Le corps ne doit être alors que le support des signes de la trahison.
Il y a un deuxième axe par lequel on a la reconstruction là, de cette communauté nationale, c'est autour de la nation. Il va y avoir en fait une frontière qui va se construire entre ceux qui font partie de la communauté nationale, de la République, et celles qui ne sont plus dignes d'en faire partie. Il y a une opposition entre la française, qui va être du coup la femme vertueuse, patriote, qui a souffert de la guerre, tout ça, d'un côté, et puis la tondue de l'autre, donc la collaboratrice qui est indépendante, la femme de mauvaise vie, et qui n'est plus ou incluse dans une structure comme la famille ou la communauté, structure qui pourrait à son tour garantir son inclusion dans la nation. Et en plus, ça se passe au moment où l'inclusion de ces femmes dans la nation pourrait se faire directement par l'octroi du droit de vote, notamment, qui est donc en discussion. Mais c'est bien à ce moment-là qu'on fait le tri entre les femmes qui auraient le droit d'être des citoyennes méritantes et puis les autres. Donc on a cette frontière qui se dessine comme si la collaboration des femmes d'un point de vue intime, puisque c'est bien ce qui est suggéré par la tonte, le fait d'avoir couché, même si c'est pas ça qu'elles ont fait, cette collaboration, ça fait qu'elles ont trahi leur nation, et donc elles ont rejoint la nation ennemie. Et il y a vraiment cet effet zoom, on couche avec un Allemand, donc on perd son appartenance à la nation. Donc après, qu'on nous dise pas que la sexualité n'est pas politique. Y a cette idée que les tondues ne sont plus françaises, quoi, ou en tout cas moins françaises. Elles perdent un petit peu de droits, leur inclusion dans la citoyenneté est vraiment remise en question, parce qu'elles ne sont plus ni françaises, ni même femmes. La preuve, c'est qu'elles n'ont plus de cheveux. Le dernier axe, c'est autour de la question de l'épuration. En fait, le lieu où se joue la reconstruction de la nation, c'est directement le corps des femmes. Car c'est par le corps des femmes qu'on va nettoyer le pays après l'occupation, qu'on va effacer les signes de sa présence passée. On nettoie donc la communauté nationale en stigmatisant des individus qui sont jugés extérieurs à cette communauté nationale. Donc ça peut aussi nous rappeler des trucs de ce qui se passe actuellement. Et donc ce nettoyage, en fait, il va passer par la purification des corps. On débarrasse les corps de leurs cheveux, de leurs poils, on les désexualise, on les fait repartir à zéro, comme on débarrasse un corps de ses parasites ou de ses poux. Les rites de tonte, où on va faire tout ce processus-là de purification, ça permet aussi une réappropriation et un nettoyage des corps des femmes pour le grand corps social, quoi. Les corps sont vraiment une propriété collective de la nation. Et puis, on les purifie aussi en organisant un suivi médical de ces corps pour montrer à quel point il y a une préoccupation hygiéniste quoi, derrière ces corps. C'est vraiment cette analogie entre le corps social, le corps des femmes, machin. Du coup, les tondues, elles vont, dans certains endroits, elles vont être soumises à une obligation de suivi médical pendant plusieurs mois. De la même manière, enfin le même suivi quoi, que auquel sont obligées les prostituées à l'époque. Du coup, vraiment, c'est cette idée de surveiller le corps. Donc, on voit bien, enfin, c'est vraiment significatif en fait de comment la nation, elle se réapproprie, elle resoumet, elle surveille ces corps qui sont trop indépendants. Du coup, on a bien là tout ça là, toutes ces analyses, ça nous montre un peu comment on voit se dessiner en creux la figure du bon citoyen, du bon français, de l'homme ou de la femme qui, si elle reste bien à sa place, hein, si elle reste bien objet et possession des hommes et de la nation. Et du coup, cette question d'appartenance des femmes à la nation, elle se pose aussi, bien sûr, dans les empires coloniaux.
C'est en lisant un livre de Gnovan, Au pays de la fée Clochette, que je découvre l'existence d'une femme tondue en 1946 dans les rues de Saigon, en Indochine, qui était alors colonie française. Je cherche sur Internet d'autres références, des livres qui parleraient des femmes tondues dans les colonies. Parce que je suis trop curieuse de ces agissements en dehors de la métropole. Quel sens était donné à ces punitions? Mais mes recherches ne mènent nulle part. Je ne trouve pas d'autres récits. Tristesse. Dans ce que relate Gnovan, ce n'est pas la collaboration avec l'allemand qui est mis en cause, mais celle avec l'autochtone indochinois. Dans tous les cas, c'est toujours la vision de l'ennemi extérieur contre la patrie qui est attaquée. C'est toujours ce rapport sexué au châtiment. Que tu sois une femme suspectée de préférer l'allemand ou le vietnamien au français, et paf, des cheveux en moins et une humiliation collective. La femme blanche n'a qu'à bien se tenir, maintenir son rang, sa race. Ici, ce ne serait pas une supposée collaboratrice fasciste qui est humiliée, mais une collaboratrice anticoloniale. Qui sont donc ces tondeurs? Que ce soit le soldat ou le simple lambda franchouillard du Tarn ou d'Indochine, contre qui se battent-ils, au final? Pour comprendre de quoi je parle, comment cet auteur en vient à parler de cette femme tondue, je vais rapidement le présenter. Gnovan naît en Indochine en 1913 dans une famille paysanne aux environs de Saigon, qui est actuellement le Vietnam et anciennement était sous le protectorat d'Annam. C'est le sale temps des colonies, comme dit sans aucune honte ce sale réac de Sardou. C'est plus l'esclavage mais l'exploitation des terres et des habitantes de ces terres par le pouvoir colonial et militaire français, et ça depuis 1858. Dès sa jeunesse, Gnovan se politise et devient militant anticolonial et trotskiste. D'ailleurs, il subira de terribles tortures à cause de ses implications politiques par la sûreté française, lui laissant des séquelles corporelles importantes pour le reste de sa vie. Ce livre retrace les combats, grèves, luttes, insurrections menées par les paysannes et paysans, coulis, ouvrières et ouvriers des champs de caoutchouc ou d'usines françaises diverses, Michelin, Descours et Cabot, etc., contre le pouvoir colonial, dès que le pouvoir colonial s'implanta en Indochine. Et ça raconte aussi la violente répression militaire menée par l'État français, où les combattantes et combattants contre le civilisateur français sont mis en prison, déportés, torturés, tués. Puis, il y a la Seconde Guerre mondiale, et il y a aussi sa fin. 1945. La libération en France métropolitaine. Le retour des militaires français en Indochine. C'est à Saïgon que se déclenche en 1945, en septembre, une guerre de 30 ans, ne prenant fin qu'avec l'évacuation des forces impérialistes françaises en 1954 et américaines en 1975. 45. Leclerc débarque en Indochine avec une armada de soldats et ils sont prêts à en découdre avec tout ce qui ressemblera de près ou de loin à de la dissidence, de la résistance, qu'elle soit de la part de la population indochinoise ou du colon qui sera devenu anticolonial. C'est dans cette guerre pour l'indépendance que sont punies les femmes blanches qui auraient choisi l'autre clan. Je vais maintenant vous lire l'extrait. À Saïgon, la soldatesque terrorisait les Français non dénués de sympathie à l'égard des autochtones. Le 2 et 3 mars, des militaires passaient copieusement à tabac le rédacteur de justice, saccageaient son appartement, les locaux du journal et l'imprimerie. La feuille socialiste ne ménageant pas les soldats du corps expéditionnaire, dont les méfaits restaient impunis. Cet exploit fut suivi d'un autre, non moins mémorable. Le groupe culturel marxiste français de Saïgon, semi-clandestin, avait émis une motion destinée au gouvernement français en faveur de l'indépendance du Vietnam. Une jeune AFAT, auxiliaire féminin de l'armée de terre française, pour avoir signé la motion, eut le crâne tondu, les mains liées derrière le dos, et on l'obligea à descendre toute la rue Katina à 6h du soir, entre deux parachutistes cravache à la main, tandis que, sur une pancarte, accrochée à son dos, on pouvait lire « Je suis l'une des signataires de la motion marxiste ». Ça, c'était entre le 21 janvier 1946 et le 2 mars 1946.
Voilà, avec ce premier épisode de la trilogie « La boule à Z », Lilith Martin et les autres voulaient souligner la méfiance que l'on se doit d'avoir vis-à-vis de ces mouvements de joie, de ces bons sentiments nationaux et républicains. Car ce sont aussi des moments où se construisent les figures des bons citoyens et celles des ennemis intérieurs. C'est ces moments où les dominants, les hommes ici, essayent de maintenir leurs privilèges. C'est ces moments où les imbrications de morale et de politique, de nations et d'individus, sont instrumentalisées pour établir l'ordre national, patriarcal, colonial. Ces mécanismes n'appartiennent pas au passé, et les avoir à l'esprit peut permettre de ne pas se laisser endormir par des sentiments de mobilisation collective, et d'aller voir de plus près ce que cela construit, ce que cela annonce. Je suis Charlie, et le 11 janvier 2015, on mit en avant une image forte de la République unie, dénonçant copieusement qui n'était pas Charlie, cachant la flambée des actes islamophobes et racistes, peut-être un moment où la suprématie blanche, se sentant en danger, a besoin de reconstruire une unité en désignant de nouveaux ennemis intérieurs.
Source de l'émission, le documentaire Tondu en 44, une histoire honteuse de Jean-Pierre Carlon. Émission de Là-bas si j'y suis du 2 juin 2004, Histoire de Tondu, et au sein de cette émission, la rediffusion du reportage de Claire Auteur sur les femmes tondues à la Libération. Le livre La France virile, des femmes tondues à la Libération, Fabrice Virgili. Les tondues, un carnaval moche, Alain Brossa. On cite aussi la bande dessinée Fille de rien, d'Arnu West, Albertine Ralenti et Sylvain Ricard. Pour les musiques, La tondue, reprise de la chanson de Georges Brassens par Marie Volta. Le Moustique et la Pleine Lune, album Traïchko, Armel Rallon, Claire Nortet et Aurélia Icor.
It's
Vous êtes toujours sur Lilith Martine et les autres, le 102.2 sur la plus rebelle des radios. Donc on vient de finir notre premier épisode sur la boule à Z. Et on accueille, juste pour cette fin d'émission, Nadège, Méline et Anna, qui vont nous parler.
Bonsoir.
Bonjour.
Bonjour.
Bonjour. Bonjour. Bonjour ou bonsoir. Qui vont nous parler d'un tout autre sujet, de la manifestation non mixte qui a lieu le 10 avril à Lyon. Alors, est-ce que l'une de vous peut expliquer d'où vient cette initiative, comment cette initiative s'est organisée ?
C'est une initiative qui existe à Lyon depuis plusieurs années. Il y a déjà eu, de mémoire, il y a déjà eu deux marches de nuit en non-mixité. En non-mixité sans mecs cis, donc on y reviendra peut-être après sur cette question-là. Nous, en fait, toutes les trois, à part Nadège, on est deux là sur les trois à s'être investis pour la première fois vraiment cette année. Mmh. Et Nadège, par contre, avait participé à l'organisation de la dernière.
2012.
Voilà. Voilà. C'est une. À l'origine, je sais pas, peut-être que tu peux dire plus sur l'envie de l'origine.
Juste, je précise que les deux marches. Ont eu lieu en 2011 et 2012, c'est ça ?
Oui.
Et qu'il y a eu, donc 2013, 2014, il n'y en a pas eu, je crois que c'est un truc comme ça. L'année dernière, il n'y en a pas eu. Et qu'il y a eu une volonté de recréer un collectif pour relancer une marche. Enfin...
Oui, la volonté d'individu pour relancer l'envie de refaire une marche. Comme il y a deux ans, parce que je ne sais pas trop d'ailleurs pourquoi on ne les a pas fait les années qu'on suivit les dernières marches. Et là, voilà, c'était reparti. Voilà, on est un groupe d'individus, donc pas d'assaut, pas d'orga visible. On fonctionne en collectif.
Il y a des assos qui suivent, par exemple il y a le planning familial, ou il y a des assos qui peuvent graviter autour, mais toutes les personnes qui s'investissent dans le collectif de l'organisation, c'est des personnes qui viennent en leur nom. Voilà. Mmh. Et là pour cette année par exemple, on est entre 10 et 15
à peu près. Voilà, on est une quinzaine à peu près pour l'organisation. Après justement on a essayé d'élargir au maximum, donc on a contacté pas mal d'associations. Déjà pendant la préparation, notamment pour que les personnes des assos, mais à titre individuel, s'investissent, ça nous a quand même permis de créer un collectif avec des personnes qui ne se connaissaient pas, qui n'avaient pas l'habitude de militer ensemble, et ça a été assez riche de rencontrer plusieurs personnes qui venaient du milieu militant, mais d'assos, de collectifs très variés. Et après, on a aussi continué à relancer encore plus largement pour que les personnes puissent venir le jour de la marche. Voilà.
Alors peut-être, tout à l'heure, vous avez dit que c'est une manifestation non mixité, c'est-à-dire sans mecs cis. Donc on va expliquer un peu les mots, même si c'est des mots qu'on utilise souvent à Lilith Martine et les autres. Mais... Alors pourquoi déjà non mixité, ça veut dire quoi ? Et puis c'est quoi les mecs cis ?
Alors déjà, c'est une non mixité choisie. C'est important de parler du terme de non-mixité choisie, parce que justement on fait le constat qu'on vit beaucoup de non-mixité subie, et notamment dans l'espace public, et c'est une marche de nuit. Et un des premiers points en fait, c'était de faire le constat notamment en tant que meuf, mais aussi là en l'occurrence... Donc tu as raison, je vais peut-être revenir sur la non-mixité qui a été choisie, qui est une non-mixité sans mec cis. Donc le cisgenre, c'est les personnes qui ont le même genre que le sexe qui leur a été attribué à la naissance, en gros. Et donc la marche est ouverte à toutes les femmes cis ou trans et aux mecs trans. Voilà, seuls les mecs cis sont exclus. Voilà, si on essaie de rentrer dans le détail. Et pour expliquer cette non mixité, enfin vous me coupez un dès que.
T'es bien partie.
Je suis partie. Pour expliquer cette non mixité, c'est justement que. Le constat de base, c'est que les personnes concernées par la non-mixité choisie ne peuvent pas évoluer dans l'espace public, notamment la nuit, tranquillement en fait. contrairement au Mexis en fait, qui occupe principalement ces espaces-là et bénéficie d'un statut de domination qui leur permette et eux d'être tranquilles à l'instar des autres personnes et aussi de faire preuve de pression auprès des autres, des meufs ou des mecs trans par exemple. Enfin, c'est pour ça en fait que la non-mixité a été choisie, c'était suite à ce constat-là. Et aussi la marche, une des premières phrases que vous pouvez lire dans l'appel, c'est que pour dire que la nuit, la rue nous appartient. Donc on est parti de ça. Après on peut parler plus en détail des revendications qui sont dans l'appel, qui sont plus larges, mais le point de départ c'est vraiment ça, c'est de reprendre l'espace, la nuit,
l'appropriation, ouais.
Voilà.
Et ben justement, tu as trouvé la transition vers ma prochaine question. Bravo. C'était sur un peu les revendications, les slogans, parce que votre appel, on voit qu'il est assez touffu, quoi, assez dense. Et du coup, peut-être vous pouvez expliquer certaines de vos revendications.
Alors, effectivement, il est assez dense. Après, c'est aussi à l'image du collectif qui organise la marche, c'est-à-dire qu'il y avait il y a des gens qui sont dans des problématiques différentes et avec donc une envie de croiser un certain nombre de choses qui à la fois nous tiennent tous et toutes. Et on a voulu aussi l'ancrer dans un contexte actuel. Il y a quelques instants, on parlait de l'unité nationale et de tout ce que ça implique et justement des ennemis intérieurs qui ont été un peu pointés du doigt. Et du coup, il y a aussi le fait que les femmes racisées, les femmes voilées notamment, sont particulièrement impactées par ce contexte-là. Donc ça, c'est quelque chose qui nous tenait à cœur. Donc on a essayé de l'actualiser, enfin de le mettre en lien avec ce qui se passe aujourd'hui, et notamment dans l'espace public. Pour cette question-là.
Et on a essayé d'appuyer parce que malheureusement, on a vu qu'à plusieurs reprises, en fait, il y avait une récupération du discours féministe à des fins qui ne nous correspondent pas du tout, contre lesquelles on lutte, donc notamment l'islamophobie, mais pas que. Et donc, il était important pour nous de revendiquer, parce que c'est une marche de nuit non mixte, féministe, et de revendiquer une forme de féminisme qui est un point d'ancrage pour lutter contre l'islamophobie, l'antisémitisme, et qui essaye d'avoir une posture en soutien par rapport aux travailleurs et travailleuses du sexe. Enfin voilà, il était important pour nous de bien le préciser dans l'appel, parce qu'on a trop vu de récupération fascisante, de récupération du féminisme à des fins plutôt de faf, quoi. Voilà.
Ouais, que ce soit pas mal compris aussi au niveau, au niveau du discours sécuritaire. Parce que parfois, c'est vrai que c'est ce qui peut, dans les manifs de nuit, comme c'est se réapproprier la rue la nuit, il ne faut pas se faire agresser. Puis c'est qui agresse, c'est des délinquants. Puis du coup, il y a aussi ce discours-là, des fois, qui récupère. Ouais.
Et on a essayé aussi, à travers le choix du parcours, d'insister là-dessus, qu'il n'y avait pas des zones protégées, des zones qui seraient... des quartiers, ou plus particulièrement, parce que il y a eu quand même toute une campagne autour de l'harcèlement de rue, mais justement qui a été en partie repris à travers des propos pour des fins racistes. Et donc on a essayé, et dans l'appel et même dans le parcours choisi, de montrer qu'en fait on était féministes, mais nous luttions bien entendu contre tout ça, voilà.
Est-ce que vous pouvez dire du coup justement le parcours qui est choisi et
en gros on part, donc c'est rendez-vous, donc je répète la date, le vendredi 10 avril à 20h, c'est départ place de la Croix-Rousse. Et sans rentrer dans les détails, en fait on va passer plus ou moins dans les pentes, place des Terreaux, et on va arriver dans le 7e arrondissement.
En passant par les quais.
Et on passe notamment les lieux dits de fête, un peu, où justement, c'est souvent que les personnes peuvent être embêtées la nuit quand elles marchent. Voilà.
Voilà. Ok. On a l'appel, il est aussi en. On a pointé. On a fait un appel qu'on a orienté aussi en mémoire de Özgecan Aslan, qui est une jeune femme alévi qui a été violée et tuée en Turquie par des fascistes turcs, et en mémoire, enfin en soutien actif à Lucie, qui est une camarade militante antifasciste qui a été violée en France. Voilà, ça c'était aussi pour par un fasciste aussi. C'était pour voilà pour ancrer aussi dans des exemples actuels, concrets de choses qui nous tiennent.
Mmh. Et en termes plus logistiques, je voulais préciser que donc le vendredi 10 avril, c'est la veille des vacances scolaires, mais que on a pour les personnes qui veulent venir, on a mis en place un système de garderie pendant la marche. Et donc sur les appels, sur les affiches, on peut le voir, il y a une adresse qui est précisée, mais vous pouvez nous joindre aussi à marchedenuitlyon@riseup.net et pour qu'on donne plus d'informations, mais il y a tout un système pour garder les enfants le temps de la marche et un peu plus. Donc ne surtout pas hésiter, il y a des personnes qui s'occupent de ça, qui sauront bien prendre en charge les enfants. Okay. Voilà.
Super. Vous avez autre chose à ajouter ou
Bah venez nombreuses et nombreux, voilà. Ça va être bien. Si vous avez des pancartes à ramener, des trucs, n'hésitez pas. Voilà, c'est un espace qu'on doit s'approprier collectivement. Donc voilà.
Voilà. Donc ouais. Vendredi 10 avril 20h départ place de la Croix-Rousse.
Ok. Voilà. Et ben on sera là, Lilith, Martine et les autres avec les micros.
Ben merci.
Merci à vous d'être venus.
Merci.
Et on se quitte avec le Dancehall Social Club, mais avant on remet un petit peu de musique.
Im Kokam,